France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Comment parler de Luis Buñuel ? Analyser intégralement un film, deux films, on pourrait se demander quelles images nous restent lorsque l'on croit avoir, sinon oublié, du moins laissé s'éloigner quelques bobines des dizaines de films de Luis Buñuel. Alors, faisons appel à notre œil, un œil qui verrait s'approcher un petit bout de pellicule, beaucoup moins menaçant qu'une lame de rasoir, mais tout autant marquant. Rediffusion d'un mardi du cinéma, proposée pour la première fois sur France Culture, le 13 janvier 1987.
Le premier plan qu'a tourné Luis de toute sa vie, c'est le fameux plan de l'œil déchiré dans Le Chien Andalou. Au début du Chien Andalou, un homme regarde, un homme qui est Buñuel d'ailleurs, regarde la lune qui paraît comme fondue par un nuage peint d'ailleurs sur une toile dans un studio. Et tout de suite après, il y a un œil qui est un œil de femme, et qui, dans le gros plan qui suit, est un œil de mouton, qui est fendu en deux par une lame de rasoir. C'est un des plans les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Je crois que celui-là, on l'a vu partout. Ça déchirait l'œil qui regarde l'écran. Et ce qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est que le dernier plan que Buñuel ait tourné dans sa vie, 60 ans plus tard, à la fin du tournage de L'Obscur Objet du Désir, et c'est vraiment le dernier plan parce qu'il l'a tourné, il l'a refait 3 semaines après le tournage, et c'est vraiment le dernier plan, c'est le plan où, vers la fin du film, des mains de femmes recousent une déchirure dans un tissu de soie.
Une image du troupeau de moutons rentrant dans l'église, dans la cathédrale de Mexico à la fin de l'Ange Exterminateur, qui est un plan qui m'a frappé aussi, peut-être parce que une fois quelqu'un demandait à Buñuel pourquoi il y a autant de moutons qui rentrent dans la cathédrale de Mexico, et il a dit parce que il y a beaucoup de gens dans la cathédrale, donc il faut qu'il y ait beaucoup de moutons pour qu'ils puissent se nourrir quand ils seront enfermés. Enfin, bon. Il y a aussi un plan avec Sylvia Pinal dans Simon le stylite, Simon du désert, où elle est déguisée en, elle est maquillée en bon pasteur, image sulpicienne avec un mouton, un agneau encore, sur les épaules, et elle devient, tout d'un coup elle se transforme en diable, elle jette l'agneau par terre en lançant des imprécations espagnoles épouvantables. Dans Viridiana, bien sûr, toute la scène magnifique et du repas des mendiants. Elle aussi, la scène où le mari enfonce une épingle dans la serrure, pensant qu'on le regarde à travers la serrure. Aussi dans Elle ou dans La vie d'Archibald de la Croze, la fin, où tout d'un coup le type qui est devenu moine, dans Elle, oui, le type qui est devenu moine s'en va de dos paisible et puis fait un petit saut comme ça, qui montre que ça, qui finalement raconte tout le film. Enfin, bon, il y a plein de... C'est un homme qui, avec la simplicité de sa technique et le dépouillement de sa technique, est un fabricant d'images qu'on n'oublie pas.
Évocation de Luis Buñuel, une émission proposée par Cécile Amcy, avec Pierre Larry, Pierre Guffroy, Jean-Claude Carrière, Claire et Bruno Maton, Raymond Bellour, Claude Pieplu, Serge Zilberman, Mouni et la voix de Luis Buñuel.
En 1900, le 19e siècle arrive, à mon avis, ça finit en 1914 avec la Grande Guerre.
Alors là, c'était l'élément le plus moderne, c'était le cinéma. Là. Et le premier film que j'ai vu, c'était un film dessin animé, sonore et en couleur. C'était une espèce de cochon qui apparaît très rose, avec le char du commissaire de police qui chantait. Les sons, c'était un phonographe derrière l'écran. J'ai fait après pour les chiens andalous. J'ai mis un phonographe derrière l'écran, comme le premier film que j'avais vu dans ma vie.
Serions-nous capables de remettre notre destin au hasard et d'accepter sans défaillance le mystère de notre vie, un certain bonheur pourrait être proche, assez semblable à l'innocence. C'est ce que dit Louise Bunuel dans Mon dernier soupir, livre de 1982, dans le chapitre « Athée grâce à Dieu ». Louise Bunuel est née en Espagne en 1900. L'année même de l'apparition de l'interprétation des rêves de Freud.
Dans cette Espagne, au cœur même de cette Espagne qu'est l'Aragon, Bunuel a eu une enfance heureuse, partagée entre la vaste maison de famille de Calanda et la Villa Maria, sur les bords de la rivière Guadalope. Avant de quitter sa province pour la résidence des étudiants de Madrid, où il se liera d'amitié avec García Lorca, Salvador Dalí, Rafael Alberti, Bunuel partage donc son temps entre Calanda et le collège de jésuites de Saragosse. Et lui-même ne cache pas l'importance de cet enseignement.
Il est courant de distinguer trois périodes dans la vie de cinéaste de Bunuel. La première surréaliste à Paris avec Le chien andalou en 1929 et L'âge d'or en 1930. Après une éclipse de 15 ans, une seconde période mexicaine.
Les films sont tous commandés. Je n'ai jamais proposé un de ces films. Ni Subida al cielo, ni El Bruto, ni Robinson Crusoe. Elle, je l'ai proposé. Oui. C'est-à-dire, je cherche toujours cette espèce de compromission entre faire des films industriels ou commerciaux et introduire des idées qui me sont chères. Ce sont des choses que je devais faire, mais qu'après j'ai arrivé à aimer. Je les ai adaptées plus ou moins à ma façon de sentir et j'ai fait toujours le possible pour introduire de certaines idées qui me sont chères et auxquelles je crois beaucoup. Idées, en général, tout à fait inconformistes envers la réalité. La réalité soit politique ou soit religieuse, ou soit, c'est-à-dire la vie de l'homme hors de lui-même, dans la société. Il y a un inconformisme total depuis mon enfance chez moi. Et malgré moi, sortira toujours quand je ferai... Si je fais un film même sur le tango argentin, il faudra que je sorte la sorte. Peut-être c'est par ma façon de voir la vie, c'est que j'ai vécu une époque de grande lutte, de grande subversion. C'est peut-être cette éducation surréaliste, si vous voulez, qui continue à travers les années.
Enfin, à partir des années 60, une troisième période à Paris.
Alors, qu'est-ce qui se passait dans les films de Bunuel? Qu'est-ce qu'ils racontent, ces films-là?
Oh, ben, ils racontent une espèce de décadence d'un monde, quoi, l'effondrement d'un monde. Avec une ironie, en plus, ça fait rire. C'est le rire de tout ça qui est bien. C'est le sourire de ce monde qui s'écroule. Quoi. Moi, j'ai vu que de la décadence, que de l'écroulement d'une société bourgeoise. C'est une attaque qui est justement très drôle, quoi, qui n'est pas politique au premier degré, ouais, qui est un constat. Quoi. Si on est sensible, on constate ça. Il n'y a pas besoin de dire que c'est pas vrai, que c'est pas vrai. On le ressent, puis c'est tout. Ouais. Tous les jours, au synthé. Alors c'est ce constat là qui est touchant et c'est pour ça que cette fraîcheur qu'il avait, cette jeunesse de sensibilité, je trouve ça extraordinaire. Ouais. Il n'y a pas d'âge. Quoi.
Au moment de la mort de Bunuel, le 30 juillet 83, j'avais noté quelques petites impressions.
Claude Pieplu.
Alors. L'homme était aussi discret, fraternel, respectueux que le créateur était explosif, irrespectueux des dogmes, des doctrines, des conformismes, de l'hypocrisie, des idéologies, des sectarismes, des appareils partisans, politiques, religieux qui aliènent l'homme au lieu de le libérer.
Plus que des formules à son sujet, ce sont des mots qui me viennent à l'esprit, insolites, rêves, poésie, humour, magie, magnétisme, démystification, calme, assurance, respect, maîtrise, dignité. Il avait les qualités du visionnaire capable des plus sublimes illuminations et du peintre réaliste qui pouvait capter et fixer les sentiments les plus quotidiennement humains.
L'amour, oui, l'amour c'est la grande force, pour moi c'est une grande force créative et destructive, n'est-ce pas? Dans une société comme la nôtre où l'amour n'existe presque pas, où l'éclosion de l'amour est presque impossible, du véritable amour, c'est pour ça qu'il m'intéresse comme un grand canon, comme une bombe atomique. L'amour. Je suis déjà vieux, mais je continue à avoir un grand respect pour cette idée.
Pierre Larry, qui me connaissait bien, avait toujours pensé que j'étais un personnage de la Buñuel. Il m'avait dit, un jour, faut que tu rencontres Buñuel, il faut que tu sois dans un film de Buñuel, ça peut pas être autrement. Buñuel ne peut pas terminer de faire son cinéma sans t'avoir eu une fois ou deux dans un de ses films. Bon, alors, les mois ont passé, et puis Larry dit, bon ben, Don Luis, on l'appelait Don Luis, hein, ses familiers l'appelaient Don Luis, prépare un film, je vais te présenter, est-ce que tu es disponible en ce moment? J'ai dit bien sûr. Et puis voilà, on a pris rendez-vous avec Buñuel dans la maison de la production de Silbermann. Il était dans un... J'ai été introduit dans un bureau et je vois une silhouette dans une espèce de pénombre qui avait l'air de taper sur un coussin, de disposer un siège, de l'orienter. Et dans ma petite tête, je dis, ben ça c'est le siège que va occuper Buñuel. On me fait entrer et puis on prépare le siège de Buñuel. Il va arriver. Pour moi, Buñuel, j'avais jamais vu. C'était quand même... Il était auréolé. Alors, je dis, il va arriver, on va le mettre sur ce siège. Alors, quelqu'un est en train de bien le mettre en place. Mais non, c'était lui-même qui préparait ce siège pour moi et qui me dit avec son accent espagnol, comme ça, s'il vous en prie, asseyez-vous. Ça, là, sont bavardés un petit peu tous les deux.
Asseyez-vous, je vous en prie.
Le fantôme de la liberté, 1974.
Vous êtes monsieur Legendre?
Oui, monsieur le commissaire, et je vous remercie de me recevoir aussi vite.
Du tout, du tout. Que puis-je faire pour vous?
Notre petite fille a disparu.
Quand?
Il y a à peine une heure, en arrivant à l'école. La nurse l'a accompagnée comme tous les jours, et quand l'institutrice a compté les élèves, elle était là.
On a fouillé toute l'école, mais bien entendu, on ne l'a pas trouvée.
Est-ce que vous avez un témoin?
Il y a la nurse.
C'est vous qui avez accompagné cet enfant à l'école?
Il y a... Oui, monsieur le commissaire, mais je ne suis pour rien. Ce n'est pas moi. J'ai fait comme tous les jours, je l'ai laissé devant la porte. Ce n'est pas vrai, Aliette?
Si, si, elle a fait comme tous les jours, elle m'a laissé devant la porte.
Tu parleras lorsqu'on t'interrogera. Tenez, dites au commandant de fouiller tout Paris, il faut retrouver cette petite fille.
Très bien, monsieur le commissaire. C'est elle?
Oui, pourquoi?
Nous ne pourrions pas l'amener avec nous?
Non, non, ce n'est pas la peine. Regardez-la bien afin de pouvoir la reconnaître et commencer immédiatement.
Très bien, monsieur le commissaire.
À ce moment-là, je n'étais pas un metteur en scène. J'aimais beaucoup le cinéma. J'étais assistant d'Epstein, comme vous savez. Mais le cinéma était un moyen d'expression pour aider dans notre lutte poétique, sociale, etc., les groupes surréalistes. Donc j'ai employé les images comme d'autres ont employé la poésie ou la peinture. Je ne connaissais pas de producteur, ni personne, je n'étais pas dans le milieu du cinéma. Alors ma mère m'a payé Les Chiens Andalous. C'est une bonne femme, bourgeoise, très catholique, elle ne savait pas ce que j'allais faire. Elle m'a payé Les Chiens Andalous. Après le Vicomte de Noailles, grâce à Cocteau, Bérard, tous les gens de l'époque, m'ont proposé de faire L'As d'Or. C'est-à-dire un film. Et j'ai fait le scénario et j'ai réalisé L'As d'Or. Voilà la raison. Mes rapports avec le mouvement surréaliste, c'était un surréaliste très convaincu. Et j'ai passé, ça a été une discipline merveilleuse pour moi, pour le reste de ma vie. Et c'est un grand souvenir pour moi.
Pierre Guffroy, décorateur.
Il m'a accepté comme tel, quoi. Et puis on est parti en repérage. Et je crois que... il n'y a pas eu de problème, parce que... aussi, il n'y en a pas, parce que la force des sujets de Buñuel... que je n'ai pas retrouvé beaucoup depuis, hein, c'est l'écriture. C'est que les sujets étaient tellement, sont toujours si bien écrits, si bien envisagés, que vous ne pouvez pas tellement vous tromper. Ou alors vous êtes un ignare total. Mais il n'y a aucune raison. Ça a toujours été très très bien écrit. C'est un exemple. Oui. J'en ai fait 4 avec lui. J'ai fait la Voie lactée, le charme discret de la bourgeoisie, le fantôme de liberté, et puis cet obscur objet du désir. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait ces 4-là, et toujours, c'est l'écriture. Alors, par exemple, quand Buñuel voulait parler du décor ou des plans avec moi, il prenait rendez-vous, il disait, bon, on va se voir demain pendant une heure. Il était là, parce que toujours à l'heure, fantastique, c'est un homme de l'heure, toujours précis et présent. Et pendant une heure, on parlait du décor, et après, on n'en parlait plus, vous voyez. C'était réglé, quoi. Pas des discussions qui épuisantes, comme certains qui, toute la journée, vous parlent, et ils n'en sauront rien, vous sortez épuisé d'une discussion incertaine. Et, ouais. Lui, il a une précision superbe. Enfin, disons, elle était précise, mais aussi avec la liberté de faire un peu, de voir les points essentiels. Il voyait que l'essentiel des choses, je crois qu'il ne voyait pas le détail.
Voulez-vous du whisky, un dry martini, de la vodka?
Ce que vous voudrez, ça n'a pas d'importance.
Un martini,
par exemple.
Il préparait ses plans avec beaucoup de soin. Il était très long à préparer un plan. Un plan, il le préparait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les cadrages, il avait un petit écran de contrôle, un écran électronique. Et il vérifiait son cadrage beaucoup. Il était très, très, très minutieux sur le cadrage, un centimètre près. Pour ce qui est du jeu des acteurs, non, il écoutait, il était sourd, mais malgré tout, il avait un grand sens de la... Enfin, sourd, il avait une prothèse, il entendait quand même. Mais enfin, il avait quand même des difficultés. Non, je crois que ce qu'il... Il intervenait auprès des acteurs, surtout dans certains rythmes de réplique. Il disait plus fluently, plus léger, plus... Il sentait...
Sur la tonalité.
Sur la tonalité, sur la musicalité. Et en fait, je crois qu'il y a pas mal de grands metteurs en scène qui travaillaient comme ça. On dit que Pagnol ne regardait pas non plus les prises de vue. On dit qu'il se fiait au son. À ce moment-là, du temps de Pagnol, c'était des camions, c'était des grands trucs. Le son, c'était pas du tout un petit nagra comme maintenant. Et il s'enfermait dans le camion, il regardait pas la prise, dit-on. Hein. Et s'il était content de la manière dont les choses lui parvenaient à l'oreille, il trouvait que la prise était bonne. Buñuel, c'était un peu comme ça. Il se fiait à la musicalité.
Vous êtes officier d'infanterie ?
Non, non, de cavalerie.
Oh, pardon.
Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel ?
De la marijuana. Vous en voulez ?
Oh non, merci.
Excellent ?
Certainement pas.
Moi, avec plaisir. Mais pas ces chaises-là.
Ah bon, je vais en chercher d'autres alors.
Je n'aurais jamais cru qu'on fumait ainsi dans l'armée. Celle de mon pays, par exemple, est d'une austérité remarquable.
La marijuana, vous savez, ce n'est rien. Non, mais c'est un premier pas vers des choses plus graves. J'ai horreur des drogués.
Moi aussi. Dernièrement, 6000 marines américains ont été licenciés parce qu'ils étaient drogués. Monseigneur,
non, je vous en prie.
Monsieur.
Pardon, tapez mal. Merci.
La marijuana n'est pas une drogue. Regardez ce qui se passe au Vietnam, par exemple. Du général en chef au simple soldat, tout le monde fume.
Et le résultat, c'est qu'ils bombardent leurs propres troupes au moins une fois par semaine.
Mais non, madame. S'ils bombardent leurs propres troupes, c'est qu'ils ont leur raison.
Tout ce qui est matière cinématographique qui rentre à cause de son contenu, de sa direction morale et artistique, peut être sujet de fil pour moi. Seulement, j'ai une espèce de... Je suis très... C'est trop déjà de romans, de théâtres. Cette espèce de... Nous sommes obligés à manger du réalisme continuellement, n'est-ce pas? Ça provient du roman, ça peut provenir du théâtre, et même être un scénario original. C'est pour ça que j'ai, en principe, j'ai un certain parti pris contre les romans et contre les pièces de théâtre. Je préfère les œuvres originales. Mais si cette œuvre, pas originale, il y a un contenu qui coïncide avec ma pensée, je n'ai aucun inconvénient à les traiter.
Mais
Pour parler de Buñuel, là, je crois que la chose la pire serait d'en parler de façon ordonnée et systématique, puisque c'était quelqu'un qui laissait une grande part au hasard.
Jean-Claude Carrière.
Au hasard de la vie, au hasard de l'imagination, dans tout ce qu'il faisait. Alors je crois que le mieux, c'est d'aller au hasard et de parler, de commencer n'importe où et de finir n'importe comment.
D'accord.
Alors je sais pas, on commence où vous voulez. Dites-moi un mot.
Bon.
N'importe lequel.
Méthode.
Il y en avait une, mais c'était une méthode que nous avons trouvée au fil des années et qui était une méthode complètement intuitive et renouvelée. C'est-à-dire que la méthode consistait d'abord à s'isoler quand on avait envie de travailler ensemble, ou plutôt quand Louis en avait envie, moi j'en avais toujours envie, et quand il avait envie de faire un film et qu'il s'était décidé sur un sujet, je partais le rejoindre. D'abord toujours dans un pays de langue espagnole, soit l'Espagne, soit le Mexique. Toujours dans les mêmes endroits. Nous avons travaillé dans 4 endroits en tout, pendant 18 ans. Et isolé, c'est-à-dire pas de femme, ni légitime ni autre, et pas d'amis, pendant tout le temps où nous restions ensemble. La solitude à deux était, pour lui, indispensable. C'est-à-dire qu'il demandait, un peu ce que je retrouve tout à fait quand je travaille avec Peter Brook, il demandait un engagement qui dépassait, et de loin, l'aspect professionnel de la chose, de l'écriture. Il fallait une vie commune, il fallait que le scénario soit le reflet, toutes ces choses-là n'étaient pas dites, mais elles étaient bien entendu très fortement senties, et soit le reflet d'un moment de notre vie ensemble. Et dans cette vie ensemble, pouvait intervenir la lecture de la presse, des nouvelles, des choses qui nous arrivaient, des souvenirs que nous leur racontions, et qui prenaient place tout naturellement à ce moment-là de notre vie dans le scénario.
Un point de départ.
Un point de départ qui était... Alors, il faut dire que, chose pratique, nous avons écrit 9 scénarios ensemble, plus des départs d'autres scénarios. 6 de ces scénarios sont devenus des films. 3 d'entre eux, enfin, alors rappelons les films, 3 d'entre eux sont des adaptations de livres déjà existants. Le journal d'une femme de chambre, adapté de Octave Mirbeau, Belle de jour, adapté de Joseph Kessel, et Cet obscur objet du désir, son dernier film, adapté de Pierre-Louis, de La femme et le pantin de Pierre-Louis. Et 3 de ces films sont ce qu'on appelle des scénarios originaux. C'est une appellation qui vaut ce qu'elle vaut. Mais qui sont 3 films qui ont été faits l'un après l'autre et que nous considérons un petit peu comme une trilogie. À savoir qu'il, quand à la fin de sa vie, quand nous parlions de ces 3 films, nous les observions comme un seul film. Le premier est La Voie lactée. Le second, Le charme discret de la bourgeoisie, et le troisième, Le fantôme de la liberté.
Je peux vous raconter la première anecdote. Je suis engagé en France pour aller comme metteur en scène à Hollywood en 1930. En arrivant là, on m'a demandé si je voulais connaître les studios pour voir la façon de travailler sur le plateau. On m'a envoyé à Metro Goldwyn pour travailler Greta Garbo. Et en rentrant, je me suis mis prudemment à une quinzaine de mètres d'elle. On est en train de la retoucher pour un plan. Alors elle m'a vu, elle a cru que c'était un visiteur quelconque, et il a parlé à un chef de production. Il est venu, il m'a pris très peu poliment par les bras, et il m'a fichu dehors du studio. À partir de ce jour-là, je ne suis plus retourné à Metro Goldwyn que le samedi pour toucher mes appointements. Et au bout de 6 mois, je suis parti en France. J'étais dans un emploi que j'avais assez important à New York, j'étais obligé à présenter ma démission à cause d'avoir fait 8 ans ou 10 ans avant l'âge d'or à Paris.
Monsieur Mauclair, qui était alors directeur de la salle où fut projeté l'âge d'or, le studio 28, nous rappelle les principales étapes de cette affaire célèbre.
Dans l'émission Cinéaste de notre temps, consacrée à Louise Buñuel par Jeannine Bazin et André-Sylvain Labarthe.
Buñuel est venu me revoir, il m'a dit voilà, nous avons, Jean Cocteau et moi, nous avons été sollicité par Madame de Noailles, qui nous a donné à chacun 1 million de francs de l'époque toujours, et nous avons fait chacun un film. Jean Cocteau a fait Le sang du poète, et moi j'ai fait L'âge d'or.
Il a eu confiance ?
Oui.
Il a eu confiance ?
Oui, il a eu confiance, oui. C'est une liberté totale. C'était la nouvelle vague, beaucoup de liberté totale. Nous étions contre la technique, contre l'art, contre les plans soignés, tout ça. De notre point de vue, alors la chose qui m'intéressait, c'était raconter quelque chose, n'importe comment. On a dit après, on ne peut pas trouver du cinéma, c'est pas de l'art, c'est horrible. Ça nous plaisait beaucoup, justement.
L'âge d'or sortait le 28 novembre 1930. Le 3 décembre, les manifestations commençaient.
Au début de la projection de l'âge d'or, il y a eu des pétards qui ont éclaté dans la salle. Les photos peuvent vous le montrer, une bombe à encre a été jetée sur l'écran et des bombes fumigènes ont été allumées. Et au cri de Abba la Bischofsheim, qui était le nom de jeune fille de Madame de Noailles, Abba la Juive. Ce à quoi M. Maurice de Rothschild, qui était au balcon, au premier étage, est descendu affolé l'escalier en criant « C'est le pogrom ». Et alors ça a été le flot de ces jeunes manifestants qui en sortant alors ont lacéré des toiles de Dali, des toiles de Tanguy, de Max Ernst. Eh bien, ces toiles ont été massacrées et esquintées. On a pu appréhender certains de ces manifestants qui ont été au poste interrogés. Je les ai poursuivis. Et c'était des fils de très braves ouvriers, des garçons simples, sans aucun... une surface, et bien entendu, déféré devant le tribunal de simple police, j'avais Henri Torres à l'époque, ils ont été pratiquement acquittés et félicités.
Et à la suite de ça, le préfet de police, qui est assez connu, il s'appelait Monsieur Jean Chiappe, a fait interdire l'âge d'or, qui jusque-là avait eu son visa de censure.
Quelle était l'attitude du groupe surréaliste devant ces manifestations et devant la mesure prise à l'encontre du film?
Ah ben, nous avons protesté très vivement, nous avons fait un manifeste, que voici.
Depuis quand n'a-t-on pas le droit en France de mettre gravement en question la religion, ses fondements, les mœurs de ses représentants, etc.? Depuis quand la police est-elle au service de l'antisémitisme? L'emploi de la provocation pour légitimer une intervention ultérieure de la police n'est-il pas le signe de la fascisation? Cette intervention se faisant sous le prétexte de protéger l'enfance, la jeunesse, la famille, la patrie et la religion. Peut-on un instant prétendre que cette fascisation évidente n'a pas pour but de détruire tout ce qui tend à s'opposer à la guerre qui vient, et très spécialement à la guerre contre l'URSS?
Vous le referiez maintenant, exactement pareil?
Non, c'est passé. Ça correspond à un moment social et spirituel, tout ça, les conditions ont changé, donc se faire une autre chose, ne ferait pas la guerre.
Demandez l'action française, achetez, lisez l'action française. Demandez l'action française, journal du Parti royaliste français. Demandez l'action française.
Vive Dieppe ! Le journal d'une femme de chambre, 1963.
Vive Dieppe ! Vive Dieppe ! Vive Dieppe ! Vive Dieppe !
Il y a aussi le type qui met le contact et qui dit à son chauffeur « Al banco ». Le mec met le contact et la bagnole explose.
Claire Maton.
Et le sexologue, dans le même film qui s'appelle « Cet obscur objet du désir », il y a l'histoire d'une petite fille qui joue avec un nain dans le train. Le nain est un grand sexologue et la petite fille veut absolument jouer avec le nain et le prendre dans ses bras et elle le pose sur la banquette. Et en général, les cinéastes et leurs premiers films sont les meilleurs et ensuite ils font plus rien de bon. Et Buñuel, c'est le contraire. Moi, je trouve que sa dernière période, c'est un grand cru.
Pierre Larry, ancien assistant de Louise Buñuel.
Ce que j'ai pu... retirer de mes années avec Buñuel, c'est moins une façon de faire, que parce que c'était un homme qui racontait des choses qui lui étaient tellement personnelles qu'il ne pouvait pas faire école, dans le sens où c'est pas un homme qui a créé un genre, il faisait quelque chose qui s'est éteint avec lui. Personne ne pourra refaire un film qui puisse ressembler à ceux de Buñuel, mais c'est dans ses rapports avec la technique, avec les acteurs, avec les gens du métier où ça m'a quand même beaucoup imprégné. Il y a plusieurs plans. Il y a le plan de la façon de travailler avec les acteurs, qui est assez particulière, je crois, enfin, c'est-à-dire qui écarte complètement la psychologie, tout ce qui peut rappeler une explication psychologique ou psychanalytique des personnages. Ça, c'était le genre de choses qui donnait de l'urticaire à Don Luis, et il se moquait beaucoup de ce type d'approche. Donc, il n'expliquait jamais les motivations, les comportements des personnages. Il est bien évident que dans ces films, ce sont les comportements, la façon d'agir, la façon de se mouvoir des comédiens qui peut donner des indications sur leur motivation, leur caractère, etc. Ça n'est pas le contraire. Ça n'est pas parce qu'ils sont ça qu'ils font ça. C'est parce qu'ils font ça qu'on peut peut-être penser qu'ils sont tels et tels. La façon qu'il avait de diriger les comédiens était très, très physique. C'est-à-dire qu'il faisait bouger, mouvoir les gens avec une grande précision, qu'il leur faisait prendre un verre à telle réplique précise ou à tel moment de la réplique, boire, le reposer. Tout ça, il était très attentif aux gestes et à la précision des gestes et à une certaine façon de les faire. Et c'est vrai que cette façon de diriger les acteurs leur donnait une manière de jouer qui se retrouve dans tous les films et qui est qui a pour moi l'essentiel de l'art de Buñuel tel qu'on peut essayer de le définir, encore qu'il soit complètement indéfinissable. Parce qu'on a beau le regarder les films, c'est fait avec tellement de simplicité, avec tellement peu de moyens ou d'esbrouf, et ça diffuse une telle magie que moi, je l'ai vu faire pendant des films et des films. J'ai regardé ces films un très grand nombre de fois et j'ai toujours pas compris.
Rien se passe nulle part. Tout est dans sa magie. Buñuel, c'est un artiste académique. Si vous regardez la manière dont il filme, dont il met en scène, ces histoires ne sont pas du tout académiques. Mais la manière dont c'est réalisé, c'est très académique. Le premier film qu'il ait fait seul, c'était La Sourdesse, qui est un film alors complètement traditionnel. La forme de La Sourdesse est fantastique. Vous êtes incapable, je mets au défi qui que ce soit, de dire pourquoi ce film est tellement extraordinaire.
La Sourdesse, c'est un groupe de villages misérables, dans une des régions les plus misérables de l'Espagne. Pas une seule route, aucune hygiène possible, trop de mariages consanguins qui finissent par produire des monstres. Le pain est une denrée si rare qu'il est devenu une récompense d'écolier. Les images ont été enregistrées par Buñuel et Élie Lothar en 1932.
Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est complètement mystérieux. Parce que des films sur des horreurs, on en a vu. Des bien pires que ça. Ils font pas le même effet. Et ça, c'est un film qui est fait avec un commentaire style Fitzpatrick, documentaire sur les sardines. C'est pas... En fait, Buñuel, c'est quelqu'un qui échappe. Je crois que c'est ça son esthétique. C'est qu'il échappe à toute définition.
Les Hourdes, c'est beaucoup mieux les Hourdes. C'est une région que je connais, en plus, j'y suis allé.
Bruno Maton.
Et quand j'y suis allé, je devais avoir, 23 ou 24 ans. Et non, j'étais plus jeune, je devais avoir 20 ans. Et c'était exactement comme Buñuel les a montrés. C'était des maisons, des espèces de trucs en pierre qui avaient l'air d'être des constructions aztèques ou quelque chose un endroit de cauchemar. Mais de cauchemar dans le sens rêve, hein. Pas comme conventionnellement, comme on peut dire que c'est cauchemardesque. Non, non. C'était vraiment un mauvais rêve. Un mauvais rêve, cet endroit. Et je me souviens très bien d'une petite fille qui est sortie d'une maison, qui m'a vu, qui m'a regardé avec une véritable terreur et qui a fui. Et après, j'étais en voiture et j'ai pris un jeune couple qui venait de se marier. Et la jeune femme avait une carotte à la main avec les fans de la carotte. Je les ai pris en stop et j'aurais dit, alors vous vous mariez, c'est formidable et tout. Et ils m'ont dit, non, c'est horrible, mais on va pouvoir sortir d'ici. Voilà, c'est ça les Hourdes. Bon, pour parler du film, à mon avis, c'est un film qui contient une sorte de... C'est un film sur la damnation. C'est la suite de l'âge d'or, en fait, mais vu sous un autre angle. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'homme est dans une situation catastrophique ? Et comment il apparaît ? Et il apparaît non pas comme on a toujours dit, l'homme abaissé devient comme un animal, ce qui est complètement faux, à mon avis. Il devient une espèce de crispation intérieure qui reflète dans l'expression des visages, dans le noir au fond des yeux, qui reflète la situation de catastrophe qui est devenue permanente et pour toujours. Je pense que peut-être la chose la plus humoristique, elle est extrêmement bizarre, c'est ce plan qu'il y a dans le film, si je me souviens bien, où les enfants, qui sont des enfants misérables, sont dans une classe, et puis ils filment en dessous des bureaux. Et on voit tous les petits pieds, nus, si je me souviens bien, mais aucun ne touche le sol.
J'étais très frappé là en relisant le texte de Danet, non pas sur le film Elle, mais sur la mort de Buñuel, où il dit « Chacun de ces films est comme un rêve. Les plus réussis ont la netteté de ceux qu'on a réussi à se rappeler entièrement, d'où leur comique littérale. Les moins réussis sont ceux dont on ne se souvient que par lambeaux. »
Raymond Bellour.
Et avant de revoir le film, j'avais comme ça l'impression que par rapport au film de Buñuel que moi j'ai peu revu ces dernières années, ce qui me restait c'était des éclairs. J'ai vraiment des images éclairs qu'on n'avait absolument pas pu arriver à effacer, qui restaient avec des nettetés comme des fragments de rêve. Par exemple, le geste dans Susanna la perverse, un de ces films mexicains, où chaque fois qu'un personnage masculin rentre dans la pièce où la jeune servante se trouve, elle baisse son corsage pour montrer ses épaules. Des choses comme ça. Donc, disons des images éclairs dont les plus fortes pourraient être celles du chien d'Alou, de l'âge d'or, qui n'ont l'air d'être faits que de successions d'images éclairs. Et ce qui me frappe par rapport à votre question, est-ce qu'il y a des plans dont vous vous souvenez ? Ce qui me frappe à la sortie de la projection de Elle, et ce qui donnerait raison à Danet, comme ça, sur l'immédiat, pour dire que c'est certainement un de ses meilleurs films, c'est que j'ai l'impression de me souvenir de tout. Et pas de plans séparés, bien sûr, je peux dire le plan des pieds, puisque le personnage est amené lui-même à s'en souvenir, puisque c'est à partir de ce fétichisme et de cette perception que le film démarre. Mais je dirais que c'est presque plus parce que le personnage est amené, lui, à s'en souvenir dans le film, que moi je m'en souviens plus. Mais j'ai l'impression que le dessin du film est d'une telle netteté que, comme ça, une heure après être sorti de la salle de projection, je me souviens de tout.
Tout, c'est quoi ? Ça fait une boucle, en fait.
Oui, non, tout, je dirais que c'est presque tous les plans. On a envie de dire plutôt toutes les images. Dans tout, ça veut dire, bien sûr, certains moments privilégiés, mais ces moments privilégiés sont tous reliés par une formidable logique. Je veux dire qu'on a l'impression que Buñuel, d'un côté, c'est bien sûr un homme d'image, puisqu'il fait des films, et que c'est effectivement que si on a tendance à se souvenir plus de certaines images, c'est parce qu'elles constituent en quelque sorte les articulations fortes, les liens, les moments absolus, les fragments
absolus. Elles sont révélatrices.
Oui, les moments absolument éclatants. Mmh. Mais en même temps, on ne peut s'en souvenir comme ça que parce qu'elles sont reliées entre elles par une formidable logique. Et c'est pour ça que je dis qu'en même temps, je me souviens de tout. Parce que quand on né dans ce rapport très immédiat et qu'on sort du film, on éprouve réellement la mémoire des enchaînements logiques qui lient toutes ces images entre elles. Et elle est un film formidablement logique.
C'est le cas d'un paranoïaque, comme on a dit.
Oui, c'est le cas d'un paranoïaque, c'est le cas d'un homme jaloux qui vit dans l'hallucination, qui finit par voir effectivement des hallucinations. Mais ce qui est intéressant en fin de film, c'est qu'on peut penser que son hallucination a commencé dès le premier instant. Quand vous disiez que c'est en boucle, c'est effectivement en boucle. C'est qu'à la fin du film, enfin avant l'extrême fin du film, quand il a dans l'église ses hallucinations et qu'il commence à voir les gens qui lui rient à la gueule et tout, et que c'est bien évidemment dans l'église où il a déjà rencontré la femme au début du film, et là il y a un premier effet de boucle, on se dit que cette perception qu'il a eue dès le départ de ce pied de femme qui l'a entraîné à cet amour immodéré qu'il a pour elle, c'est déjà, même si c'est présenté comme une perception réelle, et Buñuel est là très réaliste, hein, point de vue de la caméra, point de vue de l'œil, dès que l'œil bouge, la caméra bouge, c'est fait de façon très très suivie, fidèle, à nous dire c'est la perception du personnage. Mais tout le film va finir par nous montrer que cette perception était déjà construite comme une hallucination. Que dès le départ, un délire était en marche, pour qu'à la fin, il ne puisse plus vivre que dans cette image dissociée qu'on nous montre, où nettement, il y a un plan, à la fin, un plan pour nous, spectateurs, le vrai plan à quel on se raccroche désespérément, les gens ne rient pas dans l'église, et le plan des gens qui rient pour lui. Hein, comme si tout le film consistait à diviser progressivement une perception qui était unifiée au départ en deux séries, une qui va concerner seulement le spectateur et une qui va concerner seulement le héros, pour qu'il puisse y avoir entre le héros et le spectateur une distance, sans quoi le spectateur deviendrait littéralement aussi fou que le héros.
C'est un cas, j'ai pris le cas de la vie directement, je l'ai transformé après, mais en mettant toujours en ligne tout à fait objective et plutôt scientifique, mais en interpolant des éléments qui me sont chers. Je crois que dans elle, il n'y a pas du tout de machisme. Le machisme est un sentiment très primaire, mexicain, très sauvage, très primaire, n'est-ce pas?
Oui.
Et il se manifeste presque mécaniquement. Il faut tuer ou il faut se laisser tuer pour démontrer qu'on est des hommes. Je ne crois pas que ce soit le cas d'elle. Dans elle, il y a d'autres problèmes que l'amour d'elle pour la femme. C'est l'exaltation de la propre personnalité, c'est la paranoïa, c'est l'idée fixe. Je ne crois pas que ça a rien à voir avec le machisme ni avec la possession de la femme, ni rien. C'est plutôt avec la possession de soi-même. C'est un cas d'égoïsme extraordinaire.
Oui.
Ça m'intéressait le type humain, elle aussi. Je ne sais pas, je ne vois pas qu'il y a rien de mexicain. C'est un type universel. Seulement traiter les moyens et très espagnol, oui. Et très mexicain. La façon de se déclarer cette paranoïa, cette jalousie, c'est un cas de jaloux, c'est plutôt espagnol. Si c'est en français, ça se déclencherait d'une façon différente.
Mais...
sont moins jaloux les français que les espagnols. Mais au fond, le type est universel. C'est un type de paranoïaque. Malgré ça aussi, j'ai fait le possible pour introduire des idées qui me sont chères. Par exemple, cette relation de connaître la femme à travers une cérémonie religieuse, à travers une perversion fétichiste, voilà des associations qui n'ont rien à voir avec le type, mais avec des idées qui me plaisent.
Comme il ne découpait pas, ce qui était très important, c'était quelle était la grosseur du personnage à chaque moment de la scène. Et pour lui, ça correspondait à quelque chose de très précis et qui était sûrement vrai dans sa manière de faire, puisque sa technique ne vieillit pas et ses films s'enrichissent avec le temps au lieu de se dégrader, comme c'est quand même le cas assez général. Et c'était ce problème de grosseur de plan. Là-dessus, il était absolument intransigeant. Il en avait une vision très, très parfaite et précise. Et il exigeait toujours du cadreur, il lui indiquait très précisément quelle grosseur le personnage avait à chaque instant de la scène. Cette grosseur changeant d'ailleurs tout le temps dans le plan, étant donné que sa caméra était toujours en mouvement très faible, parce qu'il ne voulait pas que ça se voie, mais permanent.
Tout à l'heure, monsieur Richard, je voulais vous dire...
Quoi?
À ce compte-là, tout le monde devrait croire en Dieu.
Oui. Bon, je sais bien qu'il y a toujours eu des athées. Mais ce sont des fous. Ou alors ils se disent athées, ils ne le sont pas.
Et comment ça?
Parce qu'il est impossible qu'un homme de bon sens soit intimement et sincèrement persuadé qu'il n'y a pas de Dieu.
Et pourquoi, monsieur Richard?
Pourquoi? La preuve est dans la Bible. Dans le livre des Psaumes 13, verset 1, c'est l'insensé qui dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu.
Oui, c'est très convaincant.
Ah oui, c'est très convaincant.
Seuls les hommes de mauvaise mœur ne croient pas en Dieu. Et encore. S'ils le nient, c'est pour satisfaire librement leur passion, car on ne nie pas une évidence.
Alors si on parle, par exemple, de la Voie lactée, quel était le point de départ?
Depuis que je connaissais Louise, il me parlait, et nous parlions, du thème de l'hérésie. Le thème de l'hérésie au sein de la religion chrétienne, qui est notre Sainte Mère, bien entendu. Nous n'avons jamais envisagé avec Buñuel quoi que ce soit qui pût ressembler au Mahabharata, par exemple. Tout ça était... Nous étions tout à fait à l'intérieur. Cela faisait également partie de notre méthode et aussi des choses qui nous ont rapprochés. D'appartenir ensemble à la Méditerranée, d'avoir appris le latin, d'avoir été élevé dans la vraie religion.
La charité, s'il vous plaît. Monsieur, 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 la charité.
Tu as de l'argent?
Non, monsieur, non.
Alors tu n'auras rien, rien du tout. Et toi?
Moi? Oui, moi j'en ai un peu.
Alors, tu auras beaucoup plus. Tiens. Vous allez en pèlerinage?
Oui, monsieur.
Vous allez en Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle?
Ah oui, mais qui vous l'a dit?
Allez, prenez une prostituée et ayez des enfants de prostitution. Vous appellerez le premier, tu n'es pas mon peuple, et le second... Plus de miséricorde.
Noël Picaresco. Bon, alors, oui, la Voie lactée, c'est peut-être le plus picaresque des films de Buñuel. Les deux personnages, c'est de Picaro. Le personnage picaresque, c'est un type qui traîne sur les routes, qui est en général complètement désargenté, vole, et surtout raconte des histoires complètement fausses, délire totalement, vit dans une espèce de rêve permanent pour se cacher à lui-même sa misère. Et il se cache constamment sa misère en racontant des histoires fausses sur lui-même, qu'il est un héros fabuleux, enfin, etc., etc., qu'il a fait telle guerre. Et au bout d'un certain temps, la supercherie est dévoilée, bien sûr. Alors il se retrouve dans des situations et il est de nouveau obligé de fuir. Et les deux personnages de la Voie lactée, qui font soi-disant une histoire de pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est deux personnages parfaitement picaresques. Et qui ne déparerait pas du tout dans un roman comme Gregorio de Guadagna ou un autre roman picaresque espagnol de très ancien, de toute manière.
Moi, monsieur Richard, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. C'est que le Christ soit un homme et en même temps un Dieu.
Oui, Marthe, c'est difficile. Mais, regardez, quand le diable prend la forme d'un loup, par exemple, ben, il est un loup. Et il est toujours le diable. Eh bien, pour le Christ, c'est un peu la même chose.
Alors, monsieur Richard...
Allez donc donner un petit coup au vestiaire. Vous avez vu l'heure qu'il est?
J'y vais tout de suite, monsieur.
Bon. Ce sont des romans de la désillusion, de l'errance et du parasitisme, en fait, de cette société complètement décatie, qui était la société aristocratique espagnole, où les gens mouraient de faim. Et puis, quand ils commençaient à crier, on les brûlait sur un bûcher, parce que on les traitait d'hérétiques ou n'importe quoi. On trouvait toujours un prétexte pour les liquider.
Quelqu'un comme Buñuel a donc été nourri de ça, comme nous avons pu être nourris de Guignol.
Oui, absolument. Je pense qu'il les a tous lus. D'ailleurs, il en a parlé. C'est une des choses de la Renaissance espagnole, en tout cas, les plus importantes. Parce que c'était une littérature qui était racontée, qui était lue aussi par les gens qui savaient lire. Tous ceux qui savaient lire lisaient, ou ceux qui ne savaient pas lire aussi, on leur racontait. Il y avait des conteurs, il y avait des tas de gens comme ça. Et c'était ces romans-là qu'on racontait. Des romans de la dérision, en fait.
De quoi parliez-vous sans indiscrétion?
Oh, de rien. De choses et d'autres.
Mais de quoi?
Nous parlions du Christ, de sa double nature.
Ah, vous avez fait le séminaire?
Non. Non, mais c'est un sujet qui m'intéresse. Et nous nous demandions aussi pourquoi, alors qu'il y avait tant de guérisseurs et d'illuminés à la même époque, Simon le magicien, par exemple, pourquoi, en définitive, le Christ était le seul à avoir réussi?
Et parce que c'était le seul à être Dieu.
Bien sûr, Madame Garnier. Quelques huîtres pour commencer, elles sont très fraîches.
Vous m'avez demandé comment était née la Voie lactée. Alors là, c'est un souvenir très précis. Pour d'autres, j'en ai moins. Mais nous avions longtemps parlé de la notion d'hérésie qui avait beaucoup intéressé les surréalistes, y compris Breton, car à l'intérieur de cette religion que les surréalistes rejetaient quelquefois avec violence, la notion d'hérésie était quelque chose qui les attirait. Et avec lesquels, comme l'a dit Breton, je le cite, nous nous sentions quelques points de contact. Il l'a dit dans une brochure qui s'appelle « À la niche, les glapisseurs de Dieu ». Alors, pourquoi ces rapports avec l'hérésie? C'est peut-être à cause d'un certain accent aigu mis à un moment donné par un personnage ou par un groupe de personnages sur une parcelle de la vérité, conduisant bien entendu immédiatement au fanatisme et à cette nécessité de tuer ou de mourir, avec la même indifférence, pour défendre cette part de vérité qu'on est le seul à avoir trouvée. C'est ça qui définit l'hérésie, en même temps qu'elle peut se définir, mais ça nous l'avons trouvé en cours de travail, par le désir profond d'échapper au mystère, c'est-à-dire d'expliquer le mystère. Alors, à l'intérieur de la religion chrétienne, il y a un vaste combat entre les rationalistes et les irrationalistes, comme partout ailleurs. Alors, un jour, sans savoir ni pourquoi ni comment on pourrait faire un film avec la liberté souhaitée, c'est-à-dire hors du temps et de l'espace, on est au Festival de Venise ensemble avec Belle de Jour. Belle de Jour a eu le Lion d'Or d'ailleurs à Venise cette année-là, c'était, je pense, en 66. On a vu La Chinoise de Godard ensemble. Et La Chinoise, c'était un des premiers films de Godard que Buñuel voyait comme ça entièrement, disons, et avec attention. Quand on est sorti de ce film, qui nous avait quand même, comme beaucoup de gens à l'époque, assez frappé, assez dérangé, assez étonné, Buñuel m'a dit, mais je crois qu'on peut le faire, ce film sur les hérésies, puisque le cinéma est comme ça aujourd'hui, avec une espèce d'ironie, comme ça, puisqu'on peut faire n'importe quoi et le dire n'importe comment, alors on peut faire notre film sur les hérésies, avec ce sens, évidemment, de l'anti-sérieux qu'il avait constamment. Et je crois que nous nous sommes mis au travail 15 jours après, dans le magnifique automne c'était 67, dans la Sierra de Grenade.
Est-ce que les auteurs qui ont été défendus par le surréalisme et qui sont devenus des auteurs traditionnels, en quelque sorte, comme Freud...
Qui?
Freud. Oui, vous l'avez lu?
Freud, oui, à l'époque, avant de rentrer au surréalisme, j'ai lu Freud. Et 10 ans avant de rentrer au surréalisme, j'ai lu Freud en Espagne.
Et Sade?
Et Sade, je l'ai connu au moment de mon entrée au surréalisme, à travers de Desnos. Robert Desnos m'a prêté... Armand Tual.
Tual, oui.
Roland Tual. Oui, c'est lui le premier qui m'a donné... Desnos et Tual m'ont donné le premier livre de Sade.
Qu'est-ce que c'était?
C'était une révolution totale pour moi. C'est extraordinaire.
Je me souviens d'une journée entière passée avec 4 jésuites et 4 dominicains, vraiment l'arme aux pieds, comme ça... enfermés dans une salle après la sortie du film, et ils n'ont pas pu prendre le film en défaut du tout, du point de vue de l'histoire des religions, ni des textes cités dedans.
Buñuel avait eu une éducation...
Il était dans une éducation religieuse, bien sûr. Il est originaire d'une famille bourgeoise de la province espagnole, de l'Aragon. Son père est un ancien négociant à Cuba. Il vit à la fois à Saragosse, dans un bel appartement, et dans une maison dans le village de Cazorla, qui est à quelques heures de train et de voitures de Saragosse, et c'est là que se passe son enfance.
Il était éduqué par les jésuites.
Les jésuites. Et puis ensuite, il vient à la cité universitaire, à la résidence universitaire de Madrid, où il rencontre Lorca, Dali, enfin à partir de ce moment-là, ça commence sa vie connue. Mm. En fait, son enfance et sa formation ont joué un très très grand rôle, parce que les jésuites sont... ont cet avantage immense de former à la fois, comme il s'agit d'un système d'éducation, pas d'instruction. Il s'agit d'une prise en charge complète de l'élève, encore aujourd'hui. Alors, le double avantage, c'est que, ou bien on reste fidèle aux jésuites toute sa vie et on a avec soi un bâton de chemin extrêmement solide pour vous aider à vivre, ou bien on se révolte totalement contre eux et ça vous fournit, pendant le reste de votre vie, une cible à votre ardeur et à votre énergie. Donc, dans les deux cas, oui, et un appui, dans les deux cas, ça aide énormément. Mmh. Et Louis a entretenu avec les jésuites des rapports qui étaient de grand intérêt et d'estime réciproque jusqu'à sa mort. D'ailleurs, il n'était pas quelqu'un de anticlérical, contrairement à ce que l'on peut croire. Il était totalement arreligieux, bien entendu, comme tous les surréalistes, mais il était loin d'être quelqu'un du virulent, comme pouvaient l'être d'autres membres du groupe, comme Benjamin Perret, par exemple, ou Breton, à 16 heures. D'ailleurs, à la fin de sa vie, un de ses meilleurs amis était un père dominicain de Mexico, que j'ai bien connu, et un des endroits où nous allions très souvent travailler en Espagne était un tout petit hôtel, tout à fait conjoint à un très beau monastère dans la Sierra de Guadarrama, qui est au nord de Madrid et qui s'appelle El Paular. Alors dans cet hôtel, dans ce monastère magnifique du 15e siècle, nous avons passé beaucoup de temps et nous avions pour coutume assez souvent d'aller manger avec les moines qui nous recevaient dans le silence de leur monastère.
Quel sentiment vous aviez pour Luis Buñuel? C'était quoi, de l'admiration? C'est quelqu'un que vous sentiez proche?
Pas de l'admiration, mais quelqu'un qui vous rassure beaucoup. Vous voyez, vous avez vraiment l'impression d'être avec quelqu'un de talent, ça. Ça vous donne confiance en la vie, comme on est, ça vous rassure. Ça vous rassure qu'on n'est pas là inutilement, qu'on n'est pas venu ici sur Terre pour rien, quand même. Vaut mieux rencontrer des gens comme ça, de qualité, c'est... C'est comme une protection aussi. Hein. Disons qu'on sent un petit peu une présence, que c'est un peu religieux tout ça. C'est une pensée un peu religieuse finalement.
Moi, je voulais parler d'une actrice qu'il a utilisée dans tous ses derniers films,
ah oui.
Qui est la servante du journal d'une femme de chambre. Il était sourd et il a utilisé cette actrice pour sa voix, parce qu'elle a une voix. Elle a une voix d'enfant. Elle parle avec une petite voix nasillarde. Elle joue dans tous ses films, elle apparaît tout le temps. Elle est fabuleuse. Il est fabuleux, c'est son double, quoi. Moi, je le vois comme ça, Buñuel. Il a adoré ce personnage, c'est beaucoup plus qu'une... C'est plus qu'une actrice.
Il dit que c'est sa mascotte.
Ah, mais ça lui ressemble, tout à fait. Pour moi, tout son style, il est dans la voix de ce personnage. Voilà, si c'est cette voix-là.
Oui. Je voulais vous dire une chose.
Vous en avez parlé, ma fille.
Moi, je n'aime pas du tout Jésus-Christ.
Oh.
Depuis que je suis toute petite, je le déteste.
Comment? Un Dieu si bon, si doux. Comment est-ce possible?
Vous voulez savoir pourquoi?
Écoute, il faut que je voie ce malade, nous pendrons après cet entretien, voulez-vous?
J'ai 2 sacs de carottes à livrer. Quand je viendrai vous chercher, je vous le dirai.
Comment je l'ai rencontré? C'est pour le journal d'une femme de chambre. Et c'est Michel Piccoli, qui était aussi un ami de Luis, de maître, parce que moi je ne dis pas Luis, à moi c'est pas possible. Et Michel, il a demandé à Michel, où c'est Michel, je ne sais pas, et ce qui s'est passé, alors on m'a convoqué.
Mouni,
Et quand il m'a vu, il a ri et moi aussi. J'ai ri. Et puis alors il m'a donné ce rôle merveilleux. Et nous sommes devenus instantanément amis, sans parole. Et il m'a fait confiance.
Comment est-ce que vous comprenez les rôles qu'il vous a donnés ?
Eh bien, j'ai adoré le journal d'une femme de chambre. Je m'appelais Marianne, je crois.
Je ne me souviens plus du prénom, mais vous faisiez une des...
La bonne à tout faire. Je lavais le linge, j'étais... Je crois, plus bas, ça n'existe pas. C'était un rôle souillon, mais je ne me voyais pas souillon du tout dans ses mains. Pas du tout.
Je crois qu'elle a des répliques assez innocentes, assez naïves.
Je crois qu'il m'a beaucoup aimée parce qu'il a vu que je ne jouais pas. J'ai cru que c'était vrai. Mais j'avais l'impression que Maître n'était pas, facile. C'était vraiment l'espagnol. Très droit. On ne peut pas faire de faute avec lui. Et tout en étant, mon Dieu, très simple, mais j'ai senti... tenue intérieure formidable. Et j'aime ça, moi. Je n'aime pas le laisser aller. Oui, le charme discret, c'est là où je dis je n'aime pas Jésus-Christ. Et puis alors, moi, je lui ai dit, mais maître, je ne pourrais pas dire je n'aime pas Jésus-Christ. J'aime Jésus-Christ. Ah, il m'a dit, faut le dire, c'est cool, faut le dire. Et alors moi, j'étais vraiment très angoissée de dire « je n'aime pas Jésus-Christ », mais je l'ai dit. Et alors, il m'a dit « mais vous dites, je ne peux pas dire, je n'aime, mais vous le dites là ».
Alors Marianne, toutes les cites, ça marche ?
Oh oui, monsieur.
Ah, Marianne, hein. Vous avez dû en faire des blagues quand vous étiez jeune, hein ?
Moi, monsieur ? Des blagues ? Je travaillais toute ma vie, monsieur.
Vous êtes une femme comme une autre, non? Je vais vous dire une chose, moi j'aime qu'on s'amuse. Je suis pour l'amour. Je suis pour l'amour fou dans la chien.
Déjà, il était sourd au moment du journal d'une femme de chambre.
Un peu sourd.
Un peu sourd, de plus en plus. Et plus il était sourd, plus les voix des gens qui l'utilisaient dans ses films, ils sont extraordinaires. Il y a des réalisateurs qui choisissent leurs acteurs à cause de leur voix, en particulier René. Et il a réussi à fabriquer la seule véritable grande star qui ait jamais eu dans le cinéma français moderne, avec une actrice dont tout le monde croyait que c'était une petite bourgeoise sans intérêt, une mauvaise actrice, et qui en fait était une très très grande actrice, et qui doit tout, à mon avis, à Buñuel. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle en pense, mais...
Catherine
ah oui,
je pense qu'elle le sait.
C'est une grande star, et sans Buñuel, peut-être que jamais on l'aurait su. Oui. Puis à quel point... Ah. On l'a vu apparaître, c'était la fille des parapluies de Cherbourg avec sa mini-jupe. Elle était toujours toute pareille, et puis ses petits cheveux blonds bien sages. Mais au lieu d'être une petite bourgeoise, comme dans les parapluies de Cherbourg, tout d'un coup, c'était une grande star. Parce que Buñuel, il était là, dans Belle de jour.
Qui pourrait s'apparenter à Buñuel ?
Personne.
Personne.
Il est
unique en son genre.
C'est pour ça que je le compare à Michel-Ange. Pour moi, c'est un des plus grands artistes du siècle. Il est irréductible.
À quoi que ce soit.
Même y compris au surréalisme, je veux dire. C'est quelque chose qui dépasse. C'est l'immunité de la poésie, ça. C'est l'immunité de la poésie. C'est une évidence. Voilà, c'est l'évidence, Buñuel, je sais pas. C'est l'évidence.
Je suis pour l'amour fou dans la chien.
Sur le désir, ça peut être important. Si
le désir, c'est bon, le mec qui fait brûler le mannequin, quoi. Les suées du mannequin dans le four crématoire.
Archibald.
Il met l'image de sa bien-aimée. Enfin, c'est une bien-aimée d'un genre un peu particulier, quoi. Dans cette espèce de four, et on voit tout le corps se met à transpirer, parce qu'elle fond, puisqu'elle est en cire. Et le vernis doit couler comme ça. Et ça, c'est une image érotique fantastique, comme on n'en a jamais fait. Je ne peux pas dire, moi, ce que ça représente. Je ne sais pas. Je sais que c'est quelque chose qui produit un effet à la fois érotique et comique.
Au sujet du désir, bon, on peut citer la phrase de l'âge d'or, le désir est unique ressort du monde.
Serge Silberman, producteur des derniers films de Luis Buñuel.
Je ne vais pas parler de Buñuel du tout comme cinéaste parce que tout le monde le sait. Mais je veux parler de lui comme un être humain. C'est Luis Buñuel, c'est un homme qui ne pleurait jamais de malheur. S'il pleurait, c'est de la joie. Il est un homme sobre, portant n'importe quoi, toujours élégant. Même les choses très bon marché. Il est élégant dans sa conduite avec les êtres humains. Rarement, on l'a vu, presque jamais, violent. Il peut être violent seulement en discutant, en discussion avec des amis qu'ils l'ont provoqué, mais ça avec des amis seulement. Mais pas violent par violence. Et dans la discussion, mais ça a duré peut-être pas plus que 30 secondes. Après, regretter. Ça peut s'être passé des trois fois dans sa vie.
Le procès du tueur poète avait duré 14 mois. Pendant ce temps, la recherche de la petite fille continuait. Jusqu'au jour où...
J'ai fait des films pour mes amis et les amis de mes amis. Je m'en fiche du public, ça ne m'intéresse pas ce qu'ils pensent. Mais vraiment, je suis très content quand un ami comprend le film ou aime le film. Je me trouve très flatté, ça me plaît beaucoup. T'as mes amis comprennent le film. Ceux qui ne sont pas mes amis ne les comprennent pas. Ça ne veut pas dire que mes films soient très bons parce que mes amis les comprennent. Mais ça veut dire que j'ai fait des films pour mes amis et je suis très content qu'ils les comprennent, c'est tout. Je ne critique pas les autres, ils ont le droit de ne pas les comprendre, ça m'est égal. Je ne lutterai jamais pour ça. Mais je ne pense pas non plus pour plaire à mes amis. Je ne ferai pas un centimètre pour plaire à mes amis non plus. Et, par exemple, il y a le cas contraire, l'Ange Exterminateur, il y a un ami à Mexico, très ami à moi depuis 20 ans. Ils ont vu le film une quarantaine d'amis. Et en sortant, ce monsieur, mon ami, est passé à côté de moi, je lui ai tendu la main. Et il m'a dit, très fâché, Buñuel, pour beaucoup moins que ça, on a fusillé beaucoup de monde. Et il a été fâché sérieusement avec moi pendant un mois. Il a dit que c'était un homme très méchant, que c'était mauvais, qu'il ne me connaissait pas encore après 20 ans, que c'était un misérable, a dit. Pourquoi, je ne sais pas. Après, il est revenu sur son critérium et il m'a donné un repas chez lui, il était très gentil. Mais il a été fâché pendant un mois avec moi. Voilà un ami intime qui avait été tout à fait déplu par mon fils. Et ça aimait beaucoup aussi. Que ça lui déplaise, j'ai trouvé aussi bon que si ça lui avait plu. C'est une réaction, la chose qui compte pour moi, c'est réaction pure et contre. Cet ami intime auquel je crois, il a été contre moi, ça m'a plu beaucoup.
Là, je l'ai connu en 61. En fait, je regrette que je ne l'ai pas connu avant. Il est mort en 83. Juste ayant 83 ans passé, il est né en 1900. Et j'ai passé quand même avec lui presque 22 ans. Mais difficile de parler de lui parce que c'était mon ami le plus intime. Vous savez, Luis Buñuel était un vrai auteur de cinéma parce qu'il écrivait les images et en même temps les dialogues qui étaient fonctionnels. qui correspondait aux choses qu'il voulait montrer. Et Luis Buñuel savait aussi qu'est-ce que c'est un rythme. En plus de ça, comme il n'était pas prétentieux, il se critiquait lui-même. Il n'était pas toujours content de ce qu'il a fait. Vous savez, il laissait les films comprendre aux autres comme ils veulent. Comme il disait, Dieu, je ne sais pas s'il existe, mais en tout cas chacun de nous un petit diable. Il y avait sur le plateau un silence, pas du tout silence de peur, pas du tout silence. Il y avait un silence, si vous voulez, de respect vis-à-vis de tout le monde.
Il suffit de franchir les Pyrénées et d'arriver en Espagne pour se rendre compte que Buñuel est en Espagne la personnalité la plus importante depuis Goya. Il n'y en a pas d'autre, tout simplement. C'est-à-dire que, quel que soit le chemin qu'emprunte un artiste espagnol aujourd'hui, qu'il soit peintre, musicien, écrivain, à plus forte raison cinéaste ou dramatique, il va nécessairement rencontrer Buñuel sur son chemin comme un énorme bloc qu'il ne pourra pas contourner. Il n'y a pas moyen. Alors, c'est un cinéaste, oui, mais c'est beaucoup plus qu'un cinéaste. Avant tout, c'est quelqu'un dont l'attitude a compté plus que la façon de faire du cinéma. Pourquoi il a fait du cinéma, comment, je n'en sais rien. Il est bien connu de dire que c'est à cause des films de Fritz Lang qui, en 1925, quand il est venu à Paris, lui a montré que le cinéma pouvait être une forme d'expression remarquablement forte. Mais bon, il aurait aussi bien pu être autre chose. Il s'est adapté au cinéma merveilleusement bien. Il en connaissait à fond les techniques, sans être quelqu'un obsédé par l'image. Il ne s'est jamais considéré comme un fabricant d'images, et même il fuyait autant que possible l'esthétique photographique. Mmh. Il détestait les beaux effets photographiques. Il est bien connu pour avoir un jour renversé la caméra de son caméraman Figueroa, mexicain, qui lui avait préparé pour la fin de Nazarine un trop beau plan, avec un beau, magnifique ciel mexicain pommelé. Alors il a tout simplement retourné la caméra pour la mettre vers la terre, vers le sol qui était là.
De nada, padre. ¿Quiere usted que dé parte de broma? No tengo costumbre de hacerlo. ¿Costumbre? Pero tantas veces lo han robado. Sí, señor, muchas. Siempre. Con permiso.
Perdón, padre. ¿No me permitiría hacerle unas preguntas?
¿Cómo no? Con mucho gusto.
On reprend Nazarin, ¿no?
¿Cómo?
On reprend Nazarin. Nazarin.
Nazarin.
Nazarine.
Bon. Il disait Nazarin. Je ne comprends pas les Français qu'il faut, non. Pour moi, Nazarine, c'est un type humain formidable que j'aime beaucoup. Je l'ai dit déjà une fois, il est dans ce cas, est un prêtre. Il pourrait être un autre type de notre société. Il pourrait. Tout moins un policier. Il pourrait être tout. Alors, ce type-là me plaît beaucoup, m'attire énormément. À la fin. Et j'ai voulu montrer la doute dans l'esprit humain, n'importe quelle idée, n'importe quelle activité humaine. Je trouve que la doute est extraordinaire. Il vous fait progresser, la doute, non? Que Nazarine est tellement pur, tellement exact. À la fin, il doute. C'est tout ce que j'ai tassé dans le film. Des convictions aussi enracinées, et à la fin, il y a un moment où il doute. Naturellement, il ne veut pas renier de son passé. Il accepte le monde. La doute pour moi, c'est refuser le monde. Il apprécie la charité toujours, le monde. À la fin, il la refuse. Alors ce conflit, c'est lui de refuser une chose dont il apprécie, pour laquelle il vit, m'a semblé très bien. Naturellement, il ne veut pas renoncer un moment, il ne veut pas renoncer pour toujours. Mais le seul fait de la mort et la doute sur lui, ça me suffit. C'est comme une personne qui s'endort dans un lit, vous s'endormez dans votre lit avec une cigarette. Alors il peut s'éteindre, il tombe dans le lit, mais la maison peut brûler. La douce est comme les cigarettes, non? Peut rien arriver ou tout détruire. Et ça, voilà, c'est tout ce que j'ai voulu faire. Et le type humain me plaît beaucoup.
Pour la première fois de ma vie, me cuesta trabajo, perdona. Y les perdono porque es mi deber de cristiano. Los perdono. Pero también los desprecio. Y me siento culpable por no saber superar el desprecio. Tenga su perdón.
Quel rapport vous pensez qu'il avait avec la religion?
Je crois que maître, moi, Mouni, n'est-ce pas? Je crois que maître aimait
Dieu. Mais c'était toujours une boutade, je crois. J'ai l'impression qu'il était un grand catholique. On rira peut-être à m'entendre, mais ça m'est égal.
Tu le conduis en prison ?
Combien cette pomme ?
Je peux lui donner quelque chose ? Tiens, prends cette ananas et que Dieu t'accompagne. Allons, prends-le.
Non, non. Merci, Dieu vous le rendra.
À la limite, c'est difficile de dire à quel style de cinéma se rattache Buñuel, parce qu'il est... Il n'est pas un faiseur de films, il est à la fois pas un grand cinéaste et beaucoup plus qu'un cinéaste. Il est en Espagne aussi important par son attitude à l'égard de la tradition espagnole, des pouvoirs espagnols, de la vie tout simplement, par sa métaphysique, car il en a une, par son goût du hasard, par tout ce qu'il a pu dire dans ses films sur la rencontre, sur le fanatisme, sur la recherche de la vérité, sur les rapports entre hommes et femmes, sur les secrets, sur le mystère... Infiniment, il est au centre de toute démarche, beaucoup plus que quelqu'un comme Picasso, qui est un très grand peintre espagnol, mais uniquement un peintre. On peut très très bien concevoir un romancier espagnol ne s'intéressant pas du tout à Picasso. Mais on ne peut pas concevoir un romancier espagnol ne connaissant pas Buñuel, même si c'est pour le rejeter, il doit à un moment donné s'y confronter. C'est un tout autre point de vue que le nôtre, qui consiste à le considérer comme un cinéaste, un tant soit peu marginal. Là-bas, il est Goya. Voilà, c'est une vision du monde. Ce qui me frappe davantage, plus que tout, dans l'œuvre de Buñuel, au-delà de évidemment du charme, du jeu de l'imagination, de ce va-et-vient entre... hasard de l'imaginaire et rigueur de la construction, qui est le profond mystère buñuelien. Si celui du Christ, c'est la double nature homme-dieu, alors Buñuel, c'est la double nature imaginatif et constructif. Parce que, Truffaut l'a dit une fois, admirablement, j'en ai plusieurs fois parlé avec lui, et ce qui est très mystérieux dans Luis, c'est que il est un cinéaste de pur instinct. Il ne réfléchit pas à ce qu'il va dire, il n'a aucun plan à l'avance, il se laisse aller à l'imagination, il l'a dit souvent et c'est vrai, je peux en témoigner, et le résultat est parfaitement ordonné et construit. Et là, c'est dans ce creuset que se trouve le mystère de la création buñuelienne, exactement là, dans un homme qui a vécu toute sa vie parfaitement à l'aise au milieu de sa plus profonde contradiction. Il était comme tous les personnages très riches, tout à fait contradictoires. D'origine bourgeoise et totalement subversif. Il était un révolutionnaire bourgeois. Il était les deux. Dans sa vie, il était très organisé, avec des rapports très stricts à l'égard de ses enfants, et en même temps, complètement délirant et subversif, comme vous l'imaginez. Il était très confiné à l'intérieur du monde chrétien, et en même temps très a-religieux, à un point quelquefois extrême. Il était le plus espagnol des Espagnols, et en même temps complètement international, etc. Il y avait, et la contradiction dont je vous parlais était au cœur de son travail de scénariste. Car il y avait à la fois et à chaque instant, pas de travail et travail.
Mais il pouvait rire, non, il pouvait tousser. On le montre toujours très digne, très solennel. Il marche lentement, avec les mains comme ça. Après tout, il devait marcher comme tout le monde.
Nous sommes en retard. Quelle heure est-il ?
Bientôt la sixième heure.
J'ai faim.
Est-ce qu'on trouve dans tous ces films cette formidable construction et cette formidable logique ?
Bon, j'ai envie de répondre globalement oui. Cela dit, si on prend deux extrêmes, les films du début, les films dits surréalistes, Chien d'Alou, Âge d'Or, etc., On a affaire à des films dont les éléments de logique sont beaucoup plus articulés directement sur l'image et qui sont construits plus sur un système associatif et, disons, sur une logique de la provocation et pas encore sur une, ce qu'on pourrait appeler une logique narrative réellement. Même si dans l'âge d'or, il y a déjà une opposition très très violente entre le couple et la société, des choses de cet ordre-là.
Dans Le Chien Andalou.
Dans Le Chien Andalou et dans
L'âge d'or.
Et dans l'âge d'or. On a l'impression qu'il y a les images matricielles qui vont servir ensuite de tableau pour la déduction logique de tous les scénarios qui sont écrits plus tard. Si on prend les derniers films, comme La Voie lactée, Les Charmes discrets, etc., on a l'impression que là, véritablement, avec la maturité, la distance enfin totalement conquise, Buñuel, dans la structure même de ses films, parce que c'est toujours des films construits sur plusieurs plans, est arrivé au dédoublement logique dans les histoires elles-mêmes. Et qu'il joue sur des films qui se passent à la fois à plusieurs époques, avec des personnages dissociés, qui jouent sur plusieurs plans, et que véritablement, on a affaire à une sorte de cinéma sériel, et que cette image-pulsion qui reste fondamentalement son problème. Hein.
Qu'est-ce que vous entendez par image-pulsion ?
L'image-pulsion, c'est un terme qu'emploie Deleuze pour désigner le cinéma de Buñuel. Un cinéma, une image qui est basée sur une espèce d'élémentarité matérielle du corps et de saisie de la réalité de façon très très naturaliste, un peu comme chez Zola par exemple. Très directement, le monde naturel, les fragments du corps, de la réalité, saisis pour eux-mêmes et transcrits directement sur l'écran pour former une matière narrative. Hein.
Qui s'inscrivent, eux, dans une construction beaucoup plus rêvée, entre guillemets.
Oui. Et donc, au début, images matricielles qui vont servir à tout le développement de l'œuvre. À la fin, sérialisation, organisation en histoire différentielle, contrepoint, ironie maximum, jeu des séries.
Desde aquel día, he venido todas las mañanas, todas las tardes. Estaba seguro de encontrarla.
C'est un regard très chaud, celui de Buñuel.
Est-ce qu'il n'a pas un esprit tragique, Buñuel ?
Pas du tout, il n'est pas du tout tragique. Pas du tout, pas le moins du monde. L'esprit est vitaliste.
Dans la vie, distribuer des rôles.
Oui, dans la vie, par exemple, à table, il disait, ben, tiens, un tel sera, c'est lui le curé, c'est lui l'étudiant attardé, c'est lui le... Pourquoi l'évêque, c'est celui-là, ça va être le maire, ou l'homme politique, le traître, tout ça, il trouvait, quoi. Et de temps en temps, il servait des gens de l'équipe pour faire ses rôles, pour tenir ces rôles-là. Entre autres, vous avez plusieurs fois, il a fait jouer le rôle de l'ecclésiastique par son assistant, qui était Larry, hein. Larry, puis il a fait jouer aussi le rôle de... Enfin, je ne sais pas, je crois qu'un autre technicien qui a joué un rôle d'un imbécile, hein, je ne vous donnerai pas le nom, mais... ou d'un niais ou autre, il trouvait quand même, alors voilà.
Mais non, mais il avait vraiment un regard sur les gens,
oui,
quoi.
Un regard sur les gens, oui, un regard sur les gens. C'est une profonde psychologie.
Une espèce de vision des caractères.
Oui, oui. Et c'est pour ça que ça devenait encore plus drôle que souvent que le scénario, parce que il nous fabriquait un costume ou un scénario qui qui nous pouvait nous plaire ou qui pouvait aussi nous vexer un petit peu finalement. Hein. C'était pas toujours justement. Il y avait une cruauté quand même, parce que pour dire ouvert juste.
Hein. Dans Cela s'appelle l'aurore, une araignée qui court. Dans Le journal d'une femme de chambre, Jeanne Moreau en train de lacer ses bottines. Dans La mort en ce jardin, les plans extraordinaires sur Michel Girardon, la jeune muette, dans la jungle. Et les plans des fourmis. Une espèce de grouillement naturaliste extraordinaire de cette jungle.
Un chien andalou.
Trop d'images à la fois. Dans Tristana, Catherine Deneuve à la fenêtre, en train de regarder dans la rue. Extraordinaire. À nouveau un personnage qui donne l'impression de voir trop et de pas voir en même temps. Ça, c'est une chose très violente dans les films de Buñuel. Et dans Elle, c'est absolument insoutenable. Dans Robinson Crusoe, Robinson courant tout seul, en appelant, on parlait de la solitude, en criant tout seul, pour entendre des voix quand même, sur la plage déserte. Et un film dont il me reste... je dirais qu'une couleur absente, qui est La jeune fille. Un film que j'aurais beaucoup aimé revoir. Et qui raconte l'histoire d'une jeune fille, pour autant que je me souvienne, violée, abusée, martyrisée dans une situation sociale très dure. Dans El Bruto, la massivité incroyable du corps de Pedro Armendáriz, très, très brutal, qui à nouveau ne sait pas où il est, où cette masse de chair va aller.
Ya ve usted, padre, como yo no estaba tan perturbado como decía. El tiempo se ha encargado de darme un poco la razón.
Le chien, à la fin de Los Olvidados. Et puis aussi peut-être l'aveugle dans La Voie lactée qui franchit un fossé.
Je suis un auteur extraordinairement personnel, dont on a l'impression que la vision personnelle du monde était déjà totalement forgée dès le départ, qui restait complètement fidèle à ses obsessions, sa façon de voir, sa façon de penser, à sa façon de poser le problème de la liberté, de la solitude, de l'exploitation, du désir et tout, et qui a conçu au fond, à l'intérieur de l'histoire du cinéma, une œuvre extraordinairement personnelle, absolument pas dépendante, je dirais, ni des modes cinématographiques, ni des modes de production à l'intérieur du cinéma, puisqu'il est passé de la France au Mexique, aux États-Unis, à l'Espagne, à la France, etc., et qu'il a maintenu à l'intérieur de tout ça la possibilité d'une œuvre... qui au fond est, disons, à une liberté tout à fait égale à celle que serait celle d'un romancier, hein, d'un auteur, je dirais pas peu soucieux des conditions de production, mais sachant les adapter suffisamment pour ne pas en être tributaire.
J'étais très très triste qu'il meure parce que j'attendais toujours ses films. Mm-hmm. J'attendais ses films. Je savais. Que quand Buñuel sortait un film, j'allais passer 2 heures merveilleuses à regarder ça, que j'allais rire, mais d'une manière, tu comprends, parce que tu peux rire de diverses manières, mais là, tu ris avec un contentement particulier, hein, et très grand, et puis que tu peux retourner voir le film et que tu ris de nouveau, et que c'était vraiment du donne du plaisir.
J'aime beaucoup les armes, ça m'amuse beaucoup. Si j'avais en France les armes, ou en Espagne les armes que j'ai au Mexique, on m'arrêterait immédiatement. J'irais à la Guyane pour 30 ans. J'ai une 80... C'est une cinquantaine de pistolets, de dernier modèle, très meurtier, tous les... Et j'ai une quinzaine de fusils aussi. Et je charge moi-même les balles, je fonds les balles. Je suis très amateur de là. Je fabrique tout. Pour les pistolets, pour les fusils, pour les grands calibres, pour les petits calibres. Et j'aime beaucoup essayer les différentes charges de poudre, les différentes classes de poudre. J'aime pas tuer les bêtes. Je ne serais pas tuer un oiseau, mais j'aime beaucoup les armes.
Mais Jean Juan Luis, son fils, m'a raconté une anecdote qui fait ma joie parce que ça peint Buñuel. Il m'a dit, mon père, il avait cette idée de faire une balle avec une comme il fait ses cartouches lui-même, avec une charge de poudre tellement faible que, voilà, eh bien la balle, on tirerait sur lui. Il glisserait sur ses vêtements et ne ferait même pas un accroc. Alors, il y a travaillé pendant des mois. Et puis, un beau jour, il m'a dit, ça y est. Il a tiré, et puis même par précaution, il avait mis un certain nombre de dictionnaires ou de vieux annuaires du téléphone. Il a tiré, la balle a traversé la cible, les annuaires du téléphone, le mur, et est allée chez les voisins. Et ça, je trouve que c'est exactement Buñuel. C'est-à-dire que Buñuel, quand il fait un film, dit « Oh, mais je n'ai presque rien mis !» Et puis ça explose.
Mardi du cinéma. Évocation de Louise Buñuel. Avec Serge Zilberman, Jean-Claude Carrière, Pierre Larry, Pierre Guffroy, Claude Pieplu, Claire et Bruno Maton, Raymond Bellour, Mouni et la voix de Louise Buñuel. Documentation Institut National de l'Audiovisuel. Une émission de Cécile Amcy, Bernard Charon, Jacques Taroni.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 13 janvier 1987.